Bienvenue sur Neo Economicus, le podcast qui vous parle d'économie, de gestion et de finances. Retrouvez-moi également sur YouTube pour des vidéos sur les mêmes thèmes ou sur le site neoeconomicus.fr. Néolibéral, néolibéralisme sont aujourd'hui des mots devenus courants et sont généralement utilisés dans un sens plutôt péjoratif dans les cercles médiatico-politiques que l'on pourrait qualifier de progressistes par opposition. On met bien volontiers tous les maux dont souffrent nos sociétés sur le dos d'un prétendu néolibéralisme. Et ce, sans que cela ne souffre d'aucune contestation possible, ni d'aucune remise en question de cette affirmation, ou si peu. C'est tout simplement comme ça. C'est la faute du néolibéralisme. Néolibéral, c'est être pour les riches et contre les pauvres. C'est favoriser toujours plus d'inégalités de revenus. C'est être pour la loi du marché et le laisser-faire absolu. Pour la loi de la jungle, en somme. C'est être antisocial, contre l'État-providence. Être néolibéral, ce n'est pas simplement être libéral, c'est être ultra, c'est libéral. Voilà ce que recouvrent les termes néolibéral ou néolibéralisme dans l'esprit de beaucoup de personnes de nos jours. Mais ceux qui pensent ou disent cela ont-ils seulement la moindre idée de ce qu'est le néolibéralisme par opposition au libéralisme classique, dirons-nous? Savent-ils que le courant néolibéral est né il y a plus de 80 ans en France et que l'on ne devrait pas parler de néolibéralisme au singulier, mais plutôt des néolibéralismes? Savent-ils également qu'à l'origine de ce courant de pensée, il y a eu un livre, The Good Society, publié en 1937 et traduit en français par la Cité Libre. Livre écrit par un journaliste, philosophe et essayiste américain du nom de Walter Lippmann. Le livre de Lippmann a donné lieu un an plus tard à un colloque qui s'est tenu à Paris à l'initiative du libéral Louis Rougier. 26 économistes et penseurs libéraux ont répondu présents à l'invitation de Louis Rougier. Outre Walter Lippmann et Louis Rougier lui-même, étaient également présents Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Alexander Rostow, Wilhelm Röpke, Raymond Aron, Jacques Rueff ou encore Michael Polanyi, le frère de Karl, pour ne citer que les noms les plus connus et qui allaient compter par la suite. L'objet de ce colloque était de réfléchir au renouveau du libéralisme et de définir un agenda des remèdes pour y parvenir. Mais pourquoi cette remise en question et pourquoi à ce moment-là? En somme, pourquoi était-il nécessaire de se pencher sur les fondements d'une doctrine qui avait dominé le monde des idées économiques et politiques au XIXe siècle? En 1938, au moment où se tient ce colloque, les sociétés démocratiques et libérales sont en fait menacés par deux périls totalitaires, le collectivisme et le fascisme. C'est pour faire face à la montée de ces périls que Lippmann a écrit « La Cité libre » et que ce colloque, à l'occasion de sa visite à Paris, s'est tenu. Puisque le livre de Lippmann a servi de point de départ au réveil et au renouveau libéral d'après-guerre, il est nécessaire de se pencher sur le parcours et les idées de son auteur, d'autant plus que le Walter Lippmann, plus jeune, n'était pas du tout libéral, et que, même par la suite, comme nous allons le voir, sa conversion à des idées plus libérales est restée modérée. Toute sa vie, Walter Lippmann a été un célèbre journaliste et un auteur américain qui a beaucoup réfléchi sur la question sociale, la démocratie, la société libre et la place et le rôle du gouvernement dans la société. Lippmann a reçu deux fois le prix Pulitzer. Il est à l'origine du néologisme stéréotype, en psychologie, qu'il utilise pour la première fois en 1922 dans son livre Public Opinion, l'opinion publique en français. Il a aussi popularisé l'expression de guerre froide, dans son livre éponyme de 1947. Il utilise également l'expression « fabrique du consentement » qui sera reprise et popularisée plus tard par Noam Chomsky. La fabrique ou fabrication du consentement, dont parle Lippmann dans Public Opinion, c'est l'ensemble des méthodes, moyens et techniques utilisées par les experts pour faire adhérer le public à une idée, à une cause, à une politique en particulier. On pourrait penser que Lippmann, ayant inspiré le colloque du même nom, organisé par Louis Rougier en 1938, était un fervent libéral. Or, il n'en est rien. Mais il faut distinguer le Lippmann d'avant la Première Guerre mondiale du Lippmann de l'après-guerre. Il y a eu un changement notable entre les deux. Mais Lippmann n'a jamais été libéral au sens classique du terme, au sens d'un libéral du XIXe siècle. Walter Lippmann est né en 1889 à New York dans une famille juive aisée. La famille avait pris pour habitude de séjourner une fois par an en Europe, notamment en France. Walter rejoint Harvard en 1906, où il a pour professeur les philosophes William James et George Santayana, qui l'ont beaucoup influencé. À cette époque, Lippmann est un lecteur averti des auteurs de la Fabian Society. La Fabian Society, ou Société Fabienne, du nom du général romain Fabius di Cunctator, le temporisateur, était et demeure encore de nos jours à la fois un cercle de réflexion et un club politique de centre-gauche qui a été créé en 1884 en Angleterre par des sympathisants socialistes. Parmi les membres les plus éminents qui ont rejoint dès le début la Société Fabienne, on trouve Sidney et Béatrice Webb, George Bernard Shaw, le célèbre écrivain et dramaturge, ainsi que Herbert George Wells, H.G. Wells, auteur de romans de science-fiction célèbres comme L'Homme Invisible ou encore La Guerre des Mondes. Les trois premiers, Sidney et Béatrice Webb et George Bernard Shaw, créeront en 1895 la prestigieuse London School of Economics avec le philosophe Graham Wallas qui y enseignera la science politique. Invité à Harvard en 1910, ce même Graham Wallas deviendra le professeur de Lippmann. À l'origine, membre de la Société Fabienne, Wallas s'était éloigné du socialisme pour se rapprocher du libéralisme. Son influence sur Lippmann fut décisive dans sa mue intellectuelle qui le fit abandonner peu à peu ses convictions socialistes pour des positions plus libérales. Plus exactement, à cette époque, Lippmann était un membre actif du mouvement progressiste. Le mouvement progressiste prônait la réforme de la société par l'État pour répondre à ce qu'on appelait la question sociale. La question sociale était née, selon les progressistes, du développement rapide du capitalisme industriel, lequel avait entraîné des disparités de richesses telles qu'il menaçait l'ordre et la paix sociale. Les progressistes cherchaient à améliorer le sort des pauvres, et l'un de leurs chevaux de bataille était l'instauration d'un impôt progressif sur le revenu. Le jeune Lippmann était alors pétri d'idées progressistes. Après Harvard, il devient assistant du journaliste Lincoln Stephens. Les conclusions des recherches de Stephens et Lippmann sur les causes de la panique financière de 1907 vont conduire à la constitution du comité Pujot, qui sera chargé à partir de 1912 d'enquêter sur d'éventuelles ententes entre banquiers. Les conclusions de cette enquête vont mener à la création en 1913 de la Federal Reserve Bank, la banque centrale américaine, et d'une loi antitrust, la loi Clayton. En 1912, Lippmann a soutenu Theodore Roosevelt dans la course à la présidentielle et son programme le New Nationalism contre le New Freedom de son concurrent, le démocrate Woodrow Wilson. Il y avait en réalité peu de différence entre les deux candidats. L'un et l'autre partageaient l'idée que l'on ne pouvait s'en remettre au laisser-faire, du fait de l'émergence de grandes firmes et que, d'une certaine façon, l'État devait jouer un rôle plus important. Les deux divergeaient seulement sur les moyens à mettre en œuvre. Roosevelt était favorable à un renforcement de l'État fédéral et opposé aux lois antitrust, tandis que Wilson souhaitait un renforcement des lois antitrust et n'était pas vraiment favorable au renforcement de l'État fédéral. Wilson et son équipe étaient opposés à la doctrine du laisser-faire tout en se méfiant de l'État. En 1914, soit un an après l'élection de Wilson, Lippmann crée le journal progressiste The New Republic avec Herbert Crowley et Walter Weil, qui est encore édité de nos jours. La même année, il publie son deuxième livre, Drift and Mastery, qui s'inscrit dans la continuité du premier, Preface to Politics, publié un an plus tôt. Dans Drift and Mastery, Lippmann condamne la recherche du profit individuel qui, selon lui, va à l'encontre du progrès social. Il doute également que la maximisation du profit soit la principale motivation des managers et des dirigeants d'entreprises. Pour cette raison, Lippmann n'est pas vraiment défavorable aux grandes entreprises dirigées par des managers. En revanche, il critique la propriété individuelle. Les propriétaires et les actionnaires ne sont pour lui que des parasites. Lippmann pense que les élites, experts ou scientifiques, peuvent améliorer l'état de la société grâce à leur supériorité morale et intellectuelle. Il considère que l'homme ordinaire n'a ni la sagesse ni la capacité suffisante pour ce faire. Pour lui, l'homme ordinaire est en quelque sorte comme un enfant à éduquer. En 1917, il plaide pour l'entrée en guerre des États-Unis, ce qui lui vaudra de devenir l'assistant du ministre de la guerre, Newton Baker. Et fin 1918, il est envoyé à Paris avec la délégation américaine pour la conférence de paix qui débutera le 18 janvier 1919. Il quittera la conférence fin janvier, considérant que sa présence n'était plus utile. Il y fera néanmoins la connaissance de Keynes, avec lequel il deviendra ami pour la vie. Ils correspondront et se verront souvent par la suite, notamment lors des visites de Keynes aux États-Unis. Keynes et lui étaient opposés à la ratification du traité de Versailles à cause notamment des réparations demandées à l'Allemagne, qu'ils jugeaient exorbitantes. Lippmann avait demandé et obtenu de Keynes la permission de publier quelques extraits de son livre « Les conséquences économiques de la paix » dans le numéro de Noël 1919 du New Republic. Il semble que sa prise de position contre la ratification du traité ait contribué à son rejet par le Sénat américain. En 1922, Lippmann écrit « Public Opinion », livre consacré à l'étude de la manipulation de l'opinion publique. Là encore, Lippmann considère qu'on ne peut pas faire confiance au grand public dans un système démocratique pour effectuer les bons choix, à moins de recourir à des experts chargés de l'éclairer, de lui montrer le droit chemin. Des experts qui, cette fois-ci, doivent être déconnectés de l'État pour ne pas en subir l'influence et regroupés dans des agences spécialisées. Car Lippmann redoute les dérives d'un État omnipotent et recherche constamment la séparation des pouvoirs. En revanche, il place d'emblée la moralité de l'expert, du scientifique, au-dessus de tout autre. Le scientifique ne recherche pas le profit, selon lui, contrairement aux autres. Il poursuit un but noble qui ne peut que profiter au public. Dans Public Opinion, Lippmann montre une confiance presque aveugle dans la capacité des experts à trouver les bonnes solutions aux prétendus problèmes auxquels serait confrontée la société. Il ne croit pas aux progrès sociaux qui pourraient venir du système lui-même, par l'acquis de l'expérience et l'ajustement progressif des interactions humaines. Le salut ne peut venir que de l'extérieur, par l'entremise des experts et scientifiques. En résumé, la pensée de Lippmann jusqu'à Public Opinion reste très proche de celle des progressistes de l'époque. Lippmann croit que le tout est plus grand que la somme des parties. La société est plus grande que l'individu. Que la recherche du profit individuel est à la fois condamnable moralement et inefficace pour régler le problème de la question sociale. Que l'homme ordinaire est incompétent et manipulable, qu'il ne sait pas réellement ce qu'il veut ni comment l'obtenir. En conséquence, l'État doit s'impliquer davantage dans la recherche du progrès social, prendre les commandes. Bien que vers la fin, Lippmann considère qu'il serait préférable de répartir ce rôle avec des agences indépendantes composées de spécialistes chargés d'orienter et de réguler la société. Ces spécialistes, experts ou scientifiques, sont mieux à même d'éduquer le public du fait d'une supériorité intellectuelle et morale. Ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous. Dans la nouvelle société démocratique de Lippmann, ces spécialistes jouent le rôle des gardiens platoniciens. L'État, armé de ces spécialistes, serait beaucoup plus efficace que les entreprises privées pour peu qu'il ait suffisamment d'argent et de pouvoir pour fonctionner. Il propose alors de financer ce nouvel État par ce qu'il appelle le surplus social, qui est composé essentiellement d'un impôt progressif sur le revenu, d'un impôt sur les successions et des profits réalisés par les entreprises publiques. La taille des organisations, des entreprises, n'a pas d'importance, pourvu que ces entités soient dirigées par des experts. il n'y a pas non plus de limite à l'ingérence de l'État et des experts dans les affaires privées, pourvu que cette ingérence soit commandée par la recherche de l'efficacité. Voilà donc, en substance, ce que pensait Lippmann dans les années 1920. Après Public Opinion, Lippmann écrira The Phantom Public en 1925 où, comme le titre le suggère, il considère que le public est comme un fantôme dans une démocratie, un simple spectateur incompétent et indifférent aux questions de société. Dénué de capacités réformatrices, le public peut tout au plus prêter assistance à ceux qui savent, en leur accordant son vote. Il publie A Preface to Morals, en 1929, où il traite de la place de la religion dans la société moderne en constatant le déclin de son autorité morale et spirituelle. Il retrouve Keynes lors de la conférence économique et monétaire de Londres qui s'est tenue du 12 juin au 27 juillet 1933. Keynes lui apprend alors qu'il travaille à une toute nouvelle théorie économique où l'État joue un rôle plus important, ce qui n'était pas pour lui déplaire. Toutefois, Lippmann n'était pas et ne sera jamais un véritable économiste. Il a ainsi avoué à plusieurs reprises qu'il n'y connaissait pas grand-chose, n'ayant pratiquement jamais suivi de cours d'économie. Il confiera plus tard à John Kenneth Galbraith n'avoir même jamais lu la théorie générale de Keynes, dont les idées lui semblaient pourtant séduisantes. Quoi qu'il en soit, cette conférence de Londres semble être le point de départ d'un Lippmann plus libéral. La montée des systèmes totalitaires en Europe commençait à le préoccuper sérieusement. Le communisme soviétique, le fascisme italien et le nazisme allemand menaçaient de plus en plus les systèmes démocratiques et libéraux, sans parler de la grande dépression qui frappait le monde entier à la suite du krach de 1929. Il donne une série de conférences en mai 1934 qui seront publiées la même année sous le titre de Method of Freedom. Il enchaîne avec The New Imperative en 1935. Dans ces deux livres, Lippmann affirme que le gouvernement devrait être responsable du maintien du niveau de vie du peuple. Toutefois, la liberté humaine doit aller aussi loin que possible et, je cite, « l'État est le serviteur et non le maître du peuple ». Il fait aussi la distinction entre deux collectivismes, le collectivisme absolu, ou système d'économie dirigé, et le collectivisme libre, ou système d'économie compensé. Il définit le collectivisme libre de la façon suivante, je cite, « Il est collectiviste parce qu'il reconnaît l'obligation de l'État non seulement dans la poursuite d'un certain standard de vie, mais également dans le fonctionnement global de l'ordre économique. Il est libre parce qu'il préserve à l'intérieur de très larges limites la liberté des transactions. Son objet n'est pas de diriger les entreprises privées selon un plan officiel, mais de les mettre et de les conserver dans un équilibre convenable. Sa méthode consiste à redresser la balance des actions privées par des actions publiques de compensation. Dans le système du collectivisme absolu, celui des sociétés communistes et fascistes, les gouvernements planifiaient tout et imposaient leurs décisions. Alors que dans celui du collectivisme libre, les gouvernements, comme aux États-Unis, se limitaient à la correction de certaines distorsions sans compromettre le modèle capitaliste. Ils s'autorisaient à adopter des mesures d'urgence temporaires en réponse à des situations d'urgence telles que la Grande Dépression. Cet accent mis sur les méthodes d'urgence pour les situations d'urgence permet d'expliquer le soutien précoce de Lippmann au New Deal de Franklin Roosevelt. Il s'en détachera ultérieurement quand il jugera que ce programme se dirigeait vers une certaine forme de planisme. Lippmann perçoit deux risques à une implication plus grande de l'État dans l'économie. Premièrement, l'engagement de l'État s'accompagne d'une montée des lobbies, qui vont chercher à obtenir les faveurs du politique. D'autre part, il redoute l'affaiblissement de la classe moyenne et l'alliance de la plutocratie, ceux qui ont tout, et du prolétariat, ceux qui n'ont rien. il propose des aides pour lutter contre le prolétariat afin de développer la classe moyenne. The Good Society, ou La Cité Libre, qu'il publie en 1937, marque l'aboutissement de l'évolution intellectuelle de Lippmann. Il s'agit d'une tentative de combiner le capitalisme et la question sociale en opposition au socialisme et au laisser-faire. Dans la première partie du livre, Lippmann explique comment le collectivisme totalitaire est une révolte contre des siècles d'efforts de l'humanité pour se débarrasser de la tyrannie, de la pauvreté et des superstitions idéologiques qui ont rationalisé la domination de quelques-uns sur le plus grand nombre. Que ce soit dans ses variantes fascistes ou communistes, le collectivisme est un retour aux justifications pour nier l'unicité, la dignité et la liberté de l'individu, ainsi que l'abolition des institutions d'une société libre qui sont censées protéger l'être humain ordinaire de la domination et du contrôle par l'État. La révolution industrielle a certes permis un progrès économique sans précédent, mais elle a aussi engendré des conséquences sociales négatives, comme le creusement des inégalités. La réaction fut un rejet de l'économie de marché, d'où l'apparition de programmes collectivistes aspirant à contrôler le marché et à lui substituer l'autorité de l'État. Dans le cadre de sa critique de la société planifiée qui accompagne inévitablement l'État total, Lippmann s'est fortement inspiré des écrits des économistes autrichiens Ludwig von Mises et Friedrich Hayek sur l'inapplicabilité d'une économie entièrement planifiée. En outre, d'une manière qui anticipait les écrits ultérieurs de Hayek sur l'utilisation décentralisée du savoir dans une économie de marché concurrentielle, Walter Lippmann a expliqué comment le savoir dispersé est transmis et utilisé par des multitudes de personnes à travers le monde, de sorte que les désirs de chacun d'entre nous, en tant que consommateurs, peuvent être plus pleinement satisfaits, et comment tout cela est rendu possible grâce au système de prix du marché. Il n'est pas moins cinglant contre le danger des formes fragmentaires de planification qui imprègnent les sociétés démocratiques modernes par le biais de restrictions réglementaires, de protections commerciales et de subventions à la production qui créent artificiellement des monopoles, des industries privilégiées et des individus favorisés. L'intervention du gouvernement corrompt et étrangle le fonctionnement du mécanisme de marché d'une société libre. Dans la mesure où c'est le cas, le pouvoir et la prise de décision sont transférés des consommateurs et des entrepreneurs du marché, guidés par les désirs du public exigeant, aux politiciens, aux bureaucrates et aux groupes d'intérêts spéciaux qui travaillent tous ensemble contre, entre guillemets, la bonne société des personnes libres et prospères. Mais lorsque Lippmann aborde dans la seconde moitié du livre la question de la reconstruction du libéralisme, il indique qu'il ne croit pas qu'un retour à une économie de marché de laisser-faire ou qu'une implication très limitée du gouvernement dans la société soit possible ou souhaitable. Il dit que les réformes qu'il souhaite proposer visent à garantir une société libre contre les abus de ceux qui détiennent le pouvoir politique et contre des intérêts particuliers qui souhaitent utiliser le gouvernement à leurs propres fins personnelles aux dépens d'autrui. Mais il soutient que les économistes et les libéraux classiques du 19e et du début du 20e siècle ont opéré avec une conception fausse et stylisée d'un homme économique mécanique, l'homo economicus, dans un marché de concurrence pure et parfaite qui ne correspond pas au fonctionnement du monde réel. En outre, il affirme qu'une société libérale n'est pas le résultat d'un ordre spontané naturel, mais qu'elle a été établie par la loi et que, par conséquent, elle peut et doit être amendée par la loi, et ce dans tous les domaines, y compris économiques. Si le libéralisme doit être renouvelé et restauré en tant que système viable, acceptable pour la plupart des membres de la société, le gouvernement doit exercer plus de contrôle et de surveillance sur les entreprises et leur fonctionnement. Lippmann redoute la constitution de grandes entreprises et met à l'index le statut de société à responsabilité limitée, qui débouche, selon lui, sur une plus grande concentration des entreprises. Il pense que les lois antitrust doivent être beaucoup mieux appliquées pour contrer ce mouvement. Le pouvoir est injustement distribué dans une économie de marché non réglementée, ce qui conduit à des abus contre les consommateurs et les travailleurs employés par des entreprises privées débridées. Le gouvernement doit réglementer la taille des entreprises et la façon dont elles utilisent leur pouvoir décisionnel doit être supervisé par des organismes gouvernementaux. des impôts doivent être établis pour assurer une répartition plus équitable de la richesse entre les membres de la société. Et les impôts perçus plus lourdement sur les riches doivent être dépensés pour la santé publique, l'éducation, les travaux publics, l'assurance sociale et dans d'autres projets et programmes permettant d'améliorer le bien-être de tous. En d'autres termes, le libéralisme réformé et, entre guillemets, nouveau que Walter Lippmann propose comme alternative au collectivisme totalitaire qui menace d'éteindre la liberté et la démocratie dans le monde, n'est rien moins qu'un savant dosage entre l'État-providence interventionniste et la liberté individuelle. C'est à la suite de la lecture de La Cité libre que Louis Rougier a eu l'idée du colloque Lippmann. Comme il l'écrit dans un article publié en 1961, je cite, « Le grand columniste américain Walter Lippmann publia en 1937 un maître-livre, The Good Society, qui fut traduit en français sous le titre La Cité libre. Cet ouvrage rejetait l'identification posée entre le libéralisme et la doctrine physiocratique et manchestérienne du laisser-faire-laisser-passer. Il établissait que l'économie de marché n'était pas le résultat d'un ordre spontané naturel, comme le croyaient les économistes classiques, mais qu'elle était le résultat d'un ordre légal postulant une intervention juridique de l'État. Je venais d'écrire un ouvrage, Les mystiques économiques, où je montrais que les méfaits qu'on imputait au libéralisme économique étaient le résultat de son abandon. J'estimais que le livre de Walter Lippmann pouvait offrir un excellent texte de référence pour repenser la doctrine libérale. Ce fut l'origine d'un colloque célèbre qui réunit à l'Institut international de la coopération intellectuelle du 26 au 30 août 1938 quelques-uns des plus éminents économistes de l'Europe et du Nouveau Monde. Pendant ces 5 jours durant lesquels s'est tenu ce colloque, il y eut plusieurs interventions et débats organisés par thème autour du déclin du libéralisme et sur les remèdes à y apporter. Ce qui frappe à la lecture des échanges entre les participants, c'est la diversité des points de vue sur tous les thèmes abordés. On peut distinguer au moins 3 visions libérales qui se sont affrontées lors de ce colloque, avec des divergences plus ou moins marquées. Il y a le progressisme libéral de Lippmann, l'ordolibéralisme de Rostow et Röpke, et le libéralisme classique de Mises et Hayek. Car si nouveau libéralisme signifiait pour les uns pointer les failles du libéralisme historique afin de le rénover, pour les autres, cela consistait tout simplement à réaffirmer les principes libéraux historiques qui auraient été dévoyés ou abandonnés au fil du temps. Parmi les tenants d'un libéralisme historique défaillant qui était à rénover, il y avait également des divergences sur les causes ou sur les remèdes à appliquer. La dernière journée du colloque s'est terminée sur l'agenda des remèdes au déclin du libéralisme tiré de l'analyse de ses causes. Plusieurs propositions ont ainsi été formulées par Lippmann dans le but de restaurer le libéralisme. Il a également été décidé de créer un centre international d'études pour la rénovation du libéralisme. Malheureusement, celui-ci n'aura duré que 2 ans, le début de la guerre ayant mis fin à ses activités. Au sortir de la guerre, une autre organisation internationale, censée reprendre le flambeau, sera mise en place par Hayek. Il s'agit de la Société du Mont Pèlerin, mais ceci est une autre histoire.